Cette semaine, dans le balado, on fait des braquages, on se torture en amour et on prépare une tournée. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, salut.
Donc, bonne Saint-Valentin.
Ah ben merci, toi aussi. Désolé, je t'ai pas amené de fleurs ni de chocolat, mais je sais que t'aimes pas les chocolats.
Ouais, fait que pas m'amener de chocolat, c'est une belle attention.
Fait que parfait. Fait que je gagne des points.
Exactement.
Donc, week-end Saint-Valentin. Alors, programmation oblige, je vais avoir un très gros film pour les couples, pour les demoiselles aussi.
Ben, en plus, on sent que la semaine dernière, on était un peu coco. Là. On se disait, hey, pourquoi il n'y a pas trop de gros films? Ben, c'était parce que c'était le Super Bowl.
Ouais.
Fait que là, je pense qu'il y a tout le temps un retour de ça. C'est-à-dire, ben là, il y a un petit peu plus de sorties. C'est pas des trucs qui sont déterminés dans la semaine, mais comme on dit, on a de la programmation d'amoureux-amoureuse. On a une programmation enfant. On a un film aussi contre-programmation à tout ça.
Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est un long Québec, week-end ouais. aussi. Congé, c'est le President Day, le lundi, qui est un férié. Donc, c'est pour ça qu'on lance l'attaque des grosses sorties.
On célèbre le président.
Alors, avant d'aller parler des sorties de la semaine, une très courte semaine de nouveautés, mais deux trucs, je pense, qui devront plaire. On avait déjà parlé qu'il y avait un Mommy 4 en chantier.
Oui, la Mommy. Oui. Je pensais Mommy Xavier Dolan.
Oui, il fait Mommy 4 ouais. avant de faire 2 et 3.
Il fait comme Brice de Nice, hein, parce que le 2, je l'ai cassé.
On avait parlé de Brandon Fraser qui était intéressé à revenir. Donc là, tout
Est-ce
ça a été
aussi,
ficelé.
Ouais. Rachel Weisz.
C'est confirmé. Donc les deux seront de retour pour The Mommy 4. Et on a même une date.
On fait ça, un scénario.
Oui, le scénario okay, est fait. Bon. Même si les réalisateurs, c'est. Voyons. Ceux qui ont fait les Scream, là. Les,
Matt Bertolini.
Lenny, puis Owen. Owen
Beck.
Ouais, c'est quoi leur voyons. J'ai juste Radio.
Radio hein. Silence.
Radio Silence, bref.
Video Donc, kills the radio star.
19 mai 2028.
Bien évidemment,
voilà.
C'est ça.
Mais le tournage devrait avoir lieu cette année.
Je te jure que j'oublierai pas cette date.
C'est clair, tu vas l'encercler. Ben, d'ailleurs, c'est pas. Ouais, ça va être pas très loin après Fast 11. Qui était au printemps 2028.
Ah oui, c'est vrai. Là, tu vois, c'était 2027.
Doublé.
De nostalgie.
De nostalgie.
À fond. C'est ça. Pédale au plancher.
Et poursuivons dans la nostalgie. Top Gun 3, des nouvelles. Brockhammer a confirmé que le scénario est en voie d'être complété pour un tournage en 2027, pour également une sortie en 2028, l'horaire se permet.
Puis eux, ils sortent toujours ça genre au Memorial Day, là,
ben,
ça va être au mois de mai.
Ben, c'est ça, ça tombe, je pense, cette fin de semaine-là, 19 mai d'habitude.
Ouais.
Donc, est-ce qu'ils vont peut-être bouger le 4 juillet, peut-être?
Ah, ben là, oui, c'est verra. Sûr que ça serait
Et on
bien belle date.
Confirme que ça sera le dernier tour de piste de Maverick, donc Tom Cruise... Ce sera son dernier film de la franchise. Ouais, mais probablement qu'on va faire une passation de flambeau si le film rapporte beaucoup d'argent.
Il va avoir sûrement Miles Teller va être encore là.
Et oui, Glenn Powell, effectivement. Donc, les deux sont confirmés là, qu'ils vont être de retour.
C'est même, je veux dire, tout le monde. J'oublie le nom des comédiens, mais c'était une des premières fois qu'on le voyait. Mais le fils de l'autre là, qui était dans...
ah oui, Pullman...
Pas...
Ouais, c'est pas.
Non.
Non, pas Pullman.
Putain. Un acteur des années 90 qui est décédé, puis là, c'est son fils qui joue, puis. C'est le seul qui est pas en bedaine quand il est dans un bedaine, puis. Il était récemment dans Testament of Hanley, là.
J'ai pas souvenir. Désolé.
Oh,
regarde ça pendant que j'y vais avec la portion bande-annonce.
Y a-tu des drops par rapport au Super Bowl? Moi qui n'ai pas écouté du tout le Super Bowl cette année.
Oui, mais rien d'exceptionnel. Je pense que les mignons qui étaient...
Ah, je pense que c'est ça que tu as dit, mais j'ai oublié. C'est Lewis Pullman,
c'est ça. Okay. De Bill Pullman. Ouais.
Ah, c'est ça. Bon,
Lone Star dans Spaceballs.
Hors micro, on a eu la même situation. J'étais un visuel, fait que quand on dit un nom... Si je l'imagine pas correctement dans ma tête, j'arrive pas à le voir.
Ouais, Super Bowl, donc je pense que c'est en primeur, c'était la bande-annonce du nouveau film des Mignons. Sinon, on a eu droit à une autre petite annonce du Star Wars.
C'est genre, les Mignons font du cinéma, là. C'est comme.
J'ai même pas écouté.
J'ai vu ça. Puis là, ils font un film de monstres. Fait que
ouais,
là, ils décident de créer
Monsters
des monstres. Puis là, c'est ça, exact.
Donc, écoute, je pense que peu importe ce que tu fais avec les Mignons. Ça va remporter un succès.
Oui,
fait que J'ai hâte de voir. C'est une franchise que je trouve quand même très sympathique. Sinon, bonne annonce, film québécois. Je pense qu'un des films qui va être très attendu cette année, bien qu'on n'a pas de date encore de sortie officielle. Mais si on sort la bonne annonce, là, c'est que là, les choses doivent se concrétiser tranquillement. C'est Rédemption de Luc Picard. Oui. Qui a changé de titre, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, que jusqu'à la semaine dernière, ça s'appelait Violence, mais...
Rédemption peut-être plus doux.
C'était un titre de travail, puis on voulait voir, etc. Oui, c'est plus doux, puis comme je dis, Violence, ça sonne vraiment comme un film d'action, puis tout, mais je pense que Luc Picard voyait Violence comme le terme très global, mm-hmm. comme quand ah, ça, cette action est violente, mais pas nécessairement des coups de poing dans la gueule.
Un cycle de violence.
Oui, c'est ça. Fait que la connotation était différente. Fait que tu vois, Rédemption sonne un peu plus vague, mais ça a l'air d'un genre de film choral où plein de gens subissent les répercussions d'un acte d'un tueur à gage qui est à la retraite puis qui revient pour juste une dernière mm-hmm. shot et tout. Ça met en scène plein de monde, dont des comédiens français, Gérard Damont et Damien Bonnard. C'est ça?
Gérard Langevin, oui.
Damien Bonnard, mais aussi Henri Picard,
ouais.
Kelly Depau.
Est-ce qu'Henri
Luc
va
Picard
jouer...
lui-même. Luc, il est dans le... oui, il est dans le film. Oui,
oui. Ouais. Est-ce qu'Henri va jouer un jeune Luc?
C'est ça qui n'est pas clair.
C'est ça, hein?
La joue-tu un jeune Luc ou il joue le fils du personnage, justement? Ou on est-tu ça dans le passé et dans le futur? Je pense que c'est un peu ça.
Donc, à découvrir, mais en tout cas, visuellement, ça a l'air très
Ça sonne
très
comme automne 2026, mm-hmm. fin d'été peut-être, mais ouais, on n'est pas trop commis. Je pense que du côté de ce distributeur-là, des films Opal, on a encore Villeneuve qui tombe en post-production bientôt, qu'on essaye de sortir pour l'automne, mais on n'est pas certain. Je pense que là, on se retrouve avec une coupe de flèches dans son carquois, puis laquelle on va mettre quand exactement. Puis, tu sais, il y a des... C'est parce que le risque, c'est que cet automne, il y ait... Tous les gros films québécois, t'sais, en ce moment, sont pas vraiment là. Les sorties québécoises sont plus pointues, mettons, c'est ça. Puis là, cet été, il va y avoir Françoise. Mais il y a comme un petit vide. Puis là, on dirait qu'avec Hanté, avec je me souviens plus lesquels, tout semble vouloir sortir l'automne. Puis là, ça fera pas de sens. Là. Sinon, ils vont tous s'annuler puis se manger la laine sur le dos. Fait que
non, il y a sûrement qui va se
prendre un peu
placer
plus tôt,
la dernière de juillet. Là.
Peut-être. C'est peut-être ça qui va arriver avec Rédemption, là, comme de, début août, puis d'essayer de... Oui, des fois, il fait beau, puis c'est moins bon, mais il faut que tu prennes le risque de prendre une case où il n'y a personne, puis que si la météo est favorable, puis que l'engouement est là, ben, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu.
Oui, tout à fait.
Yep.
Alors, allons-y avec quand même les sorties de la semaine. C'est une semaine quand même costaud en termes de sorties, mais on va se concentrer plus sur les trois principaux. Donc, allons-y avec celui qu'on attend depuis cette sulfureuse première bande-annonce, Wuthering Heights d'Emerald Fennell.
Oui, au Québec, Les Hauts de Hurlevent. Emerald Fennell, qu'on connaît pour des films semi-nichés, je dirais. Le plus récent, Saltburn, et son premier fait d'armes qu'il a vraiment fait connaître, c'est Promising Young Woman, qui avait eu plusieurs nominations aux Oscars il y a de cela quelques années, en 21-22. C'est comme autour de la pandémie, là, les années où c'était plus difficile pour le cinéma. Ça met en vedette Margot Robbie et Jacob Elordi, principalement. Margot Robbie qui agit aussi en titre de productrice du film.
Ouais, en fait, qui a produit les deux films précédents aussi de Fennell, donc une connexion. Là.
Voilà, puis Jacob Elordi était en vedette dans Saltburn. On y retrouve aussi Hong Cho, qu'on avait surtout découvert, disons, dans The Whale.
Mm-hmm.
C'est une adaptation libre, ou disons, inspirée du mythique livre Les Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights, de Emily Bronte, qui a été écrit genre 1840, chose de même.
Qui est son seul roman d'ailleurs, parce qu'elle est décédée peu de temps après, très jeune. Et c'est la sœur de Charlotte. Qui est aussi une grande autrice, Charlotte Bronte, qui a fait Jane Eyre, entre autres. Et...
Charlotte Lebon.
Oui.
Le Bronte. c'est ça. Ouais. Fait que Runs in the Family.
Oui.
Et on avait parlé du film. Un biopic qu'il y avait eu sur elle, où c'était Emma Mackey qui l'interprétait. Je vais aller sur le synopsis. On est à la fin du 18e siècle dans les terres sauvages du Yorkshire. Donc, on est dans la Grande-Bretagne. Et le jeune Heathcliff va être recueilli par la famille des Earnshaw. Il va grandir aux côtés de leur petite Catherine, avec qui il va entretenir une espèce de relations d'amitié, parce qu'ils vont grandir ensemble, amitié frère-sœur, puis je vous rassure, là, c'est pas une affaire d'inceste, mais tu sais, on va sentir que plus ils grandissent, puis que leurs hormones vont entrer en jeu. Il va y avoir une tension sexuelle, ouais. C'est ça, une attirance l'un pour l'autre, mais qu'ils ne vont pas oser embrasser. Puisque à cause des liens là-dedans, puis tu sais, quand t'es comme en amour un peu avec ton ou ta meilleure amie, tu te dis, bon, si je fais le saut, je vais tout briser. Fait que,
et les classes sociales aussi, quand même.
Voilà, genre. C'est ça. Eux qui sont une famille, elle, une famille de riches, mais qui sont un peu sur le déclin à cause des mauvais moves de son père. Puis lui, ben, qui est comme un peu officieusement un travail pour la famille, puisqu'il a été recueilli étant orphelin. Fait que, sauf que là, elle, pour des raisons justement de sociales et autres, un peu à contre-cœur, elle va épouser un nouveau voisin, un riche, sympathique monsieur. Et ça va déchirer Heathcliff. Alors, il va se sauver et revenir plus tard et un peu tourmenter le mariage paisible de Catherine. Alors, c'est une tragédie romantique. Et là, ce qu'on aime beaucoup, c'est que Emerald Fennell est allé du côté sulfureux et, érotisant dans la patente. Fait que là, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous
exact. Montre. Mais est-ce que c'est le cas précisément?
C'est un film qui est beaucoup basé sur cette relation intense et destructrice entre les deux personnes, du côté très tragique de tout ça. Je dirais que c'est surtout sensuel, mais pas nécessairement érotique. Là. C'est sûr que si vous montrez ça à une bonne dame de 80 ans, elle sera pas en accord avec moi, là. Mais, tu sais, comparé à la série After ou des trucs comme ça qu'on a eu récemment.
Fifty Shades of Grey.
Ben, Heated Rivalry, là, qui enflamme les internets mondialement. T'sais. Là, c'est rendu le podcast d'Halluciné. Il fait un épisode par épisode là-dessus. Là. J'ai jamais vu leur podcast. D'habitude, ils se concentraient sur le cinéma. Là. Fait que on est. C'est vraiment super gros. Là. Fait que. Il n'y a pas ça, on voit pas beaucoup de chair, là. On voit un petit peu Elordi en chest deux fois, mais ceux qui veulent juste rincer l'œil, là, c'est pas ça là-dessus, c'est plus suggéré. Il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de fluides, se tremper les doigts dans le jaune d'œuf, se tremper la biscotte dans le jaune d'œuf.
Comme Fennell aime,
c'est ça, exactement.
Beaucoup les fluides dans ses films.
Mais tu sais, dans Saltburn, Barry Keoghan qui pénètre une tombe, là, ben il n'y a pas ça.
Non.
Fait qu'on est quand même une petite coche en dessous quand même. Fait que c'est ce qu'on vend. Moi, le comparable que je dirais en termes de hotness, c'est Challengers de Luca Guadagnino, qui avait aussi ce côté « Ah, ça va être chaud, les trips à trois, puis tout. » Puis finalement, oui, le film offrait quelque chose. Là, je dis pas ça juste comme un pervers qui veut voir du monde tout nu, mais tu sais, plus « Hey, ça va-tu être tension sexuelle, puis tout? » Ouais. Oui, mais finalement,
soft
il y a une trame plus grande que tout ça. C'est un peu ce qui arrive ici, mais il y a beaucoup de codes, là, tu sais. Amanda a fait du contrepoint d'un vase avec des fleurs, ben, ça a juste l'air d'un pénis qui éjacule, là, tu sais. Fait qu'on rit beaucoup de ça, ce qui fait que c'est... Il y a un certain charme, mais il y a un certain humour par rapport à tout ça, je trouve.
Mm-hmm.
Fait que toi, Patrick, t'es-tu bandé tout le long, là?
Mon
J'avais été vulgaire demain.
je m'attendais à être plus émoustillé, peut-être même un peu plus choqué. Je pensais que Fennell oserait aller un peu plus loin, parce que c'est ce qu'on nous vendait quand même, là. Mais finalement, on a droit à du harlequin très soft. Je pense qu'on est allé chercher aussi au niveau du... Bien qu'il est du côté 18 ans aux États-Unis. Quand
ouais,
même,
mais ils sont plus sensibles. C'est 13 ans et plus.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'ils veulent quand même aller chercher une audience plus jeune qui sont évidemment fans de Jacob Elordi, on doit se le dire.
Ouais, qui est connu de tu sais, oui, récemment, il a fait Frankenstein là, pour les plus cinéphiles, mais sinon, sur Netflix, là, la trilogie de Kissing Booth,
ouais,
là,
c'est,
fait que c'est comme un...
Oui, oui, c'est ça, des dieux pour les 18, 25, 30, ouais. Là, c'est comme... Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, après ça, moi, je dois avouer que je n'ai jamais lu le roman, donc je n'ai pas vu les vieilles versions non plus, dont la classique Laurence Olivier. Fait que je connaissais un peu la prémisse, puis bon, tu sais, ça fait partie de la culture populaire, fait que je connaissais un peu l'archétype du personnage d'Heathcliff et tout ça. Fait que à ce niveau-là, ça passe assez bien, mais je comprends les fans et de ce que j'ai pu lire un peu en ligne, c'est qu'on est quand même loin d'une adaptation classique du roman. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ça.
Ben, c'est de là que viennent les mauvaises critiques, si vous m'entendez. C'est comme ça porte le même titre, ben on s'attend à une adaptation, mais c'est plutôt inspiré de. Fait que là, c'est là que ça devient trompeur.
On porte le regard vraiment sur une petite partie de l'intrigue. Fait que le reste est un peu évacué, puis je pense que la dimension qui amenait cette richesse-là au récit est peut-être moins présente dans le film.
Mm-hmm.
Ceci dit, esthétiquement, c'est très beau, c'est super ouais. intéressant.
Ce look qui me rappelle un peu Partings, justement, ouais. de comme... Tu le sais que c'est des décors, là. C'est comme en carton, mais pas cheap, là. Mais tu sais, l'éclairage qui devient un peu surréaliste puis tout, fait que c'est... Moi, je trouve ça super beau, là. Je trouve mm-hmm. ça vraiment onirique, un peu.
Oui, oui.
Et contrebalancé avec des fois, vraiment, là, les cinq... Bon, je sais pas s'ils étaient vraiment dans le Yorkshire, oui, mais oui, tu sais, oui. quelque part autour avec la brume, ouais. Sur les roches.
Et le vent qu'on, voilà, qu'on ressent ça. Dans leurs cheveux. Et au niveau des performances, ben... Rien à redire, là. Tout le monde fait très bien la job. Mm-hmm. Je pense que pour Elordi, c'est un beau plaidoyer pour être le prochain James Bond. Je pense qu'il y a tous les atouts.
Es-tu dans...
Oui, Villeneuve l'a rencontré.
Ou c'est... Non, c'est pas encore.
Non, non, rien n'était confirmé.
Parce
mais...
qu'il n'y a pas un acteur qui a dit que c'était lui, là, finalement, là, ou ça s'est dit à un moment donné.
Ouais,
pas
ouais,
Elordi, mais un autre.
Oh, à chaque mois, il y a les rumeurs. Ouais, oui, ça. Ça va être lui, ça va être lui. Là. Donc, on verra bien. Belle surprise de retrouver Owen Cooper.
Il y a eu le Timothée Dalton.
Oui, ben oui, parce que la gueule carrée.
Ouais, les cheveux noirs foncés.
Comment t'appelles ça? Là,
la fossette.
La fossette dans le menton.
Ah, il fait genre 6 pieds 6.
Il y a la stature pour le jeu, l'incarner. Il est quand même imposant.
Ouais. Mais il n'est pas... il est très musclé, là, tu le mettrais ouais. à côté de quelqu'un, mais il n'est pas non plus Chris Hemsworth musclé. Il y a quelque chose de réaliste à tout ça. Là.
Ah, tout
ou
à
Daniel
fait.
Craig.
Et il joue très bien. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais ouais, donc, lui qui joue le jeune Heathcliff, c'est Owen Cooper,
okay.
Qui a causé la sensation l'année dernière avec la mini-série Adolescence sur Netflix, qui a d'ailleurs gagné un Emmy Award, et c'est le plus jeune comédien à remporter un Emmy Award pour son rôle. Mais tu parlais de Elordi dans Saltburn, il y a vraiment une connexion Saltburn dans ce film-là. Là. Donc, la comédienne Alison Oliver, qui joue la sœur de Linton, Isabelle Linton. Ouais. Donc, elle jouait la sœur d'Elordi dans Saltburn.
Ah, c'est ça, okay.
Et on retrouve aussi Ewan Mitchell, qui joue Joseph, qui joue comme un peu l'homme à main là, de la demeure. Était également faisant un des écoliers dans le film. Donc, Fennell aime travailler avec sa petite gang.
J'ai oublié de regarder, mais parce que là, comme je disais dans le synopsis, au début, on les voit jeunes. Celle qui fait la jeune qui a Catherine, là, je voyais juste une jumelle Olsen. Je trouvais tellement qu'elle avait un faciès de Ashley ou Mary-Kate quand elle était jeune, puis tout, puis j'ai oublié de regarder c'était qui.
Moi non plus, je suis pas allé voir. Donc voilà, fait que Wuthering Heights, écoute, on n'est peut-être pas à la hauteur. Je pense qu'on aurait pu aller dans une zone, là, je vais faire référence à un vieux film, mais un classique genre, c'est Dangerous Liaisons, avec okay. Malkovich et Glenn Close, qu'on était vraiment dans la manipulation, dans la cruauté. Et je trouve qu'on... Je pense que le roman s'approche de ça. Et je trouve qu'on n'assume pas pleinement. Fait que je trouve qu'il y a un petit côté, là, qui... Quand on bascule dans cette deuxième portion, qui est quand même la plus intéressante, là, quand même, là, quand Elordi revient, puis qu'il va tenter de foutre un peu le bordel.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et tout ça. Mais je pense qu'on était un peu poli quand même, malgré tout, de la réalisation de Fennell. Mais écoute, je pense que ça va plaire quand même au public.
Ah, ça va rencontrer son public.
C'est certain. D'ailleurs, on parle d'un week-end de 50 millions. Là, fait que
c'est ça. Ben, et quand même, je ne sais plus les derniers pronostics, là, sûr qu'on est rendu au vendredi. Fait que là, s'il y en a qui ont réaiguisé, ben, ils voient beaucoup de préventes. Fait que là, ils sont capables de clarifier. Mais en début de semaine, on parlait d'entre 30 et 50, ce qui est beaucoup. Mais ce qui est quand même un gros jeu, là. À 30 et 50, c'est une grosse variance.
Oui, oui.
Une variance.
Grosse ouais, variante.
Fait que, voilà. Est-ce qu'on a de la contre-programmation pour
bien
ça, Patrick?
Bien sûr. Et moi, je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Oh. Crime 101 de Bart Layton.
Ouais, Crime 101, évidemment, au Québec, tout simplement. Bart Layton, là, j'avais vu son American Animals il y a 10-15 ans avec Barry Keoghan, dans le temps qui était pas trop connu. Puis j'avais adoré ce film-là, qui était un genre de faux...
Lui, il a fait du documentaire.
C'est ça,
même,
mais ça, c'était comme une reconstitution d'un braquage pathétique là, de jeunes universitaires un peu fauchés qui allaient voler des œuvres d'art. Il travaillait pour voler des œuvres d'art dans la bibliothèque super spéciale de la grosse université. Puis, ben, un peu spoiler, la difficulté, c'est qu'après, tu sais, si tu voles des billets d'argent, ben, t'es écoule. Mais si tu voles des diamants, si tu voles des œuvres d'art, tu peux pas aller chez Tanguay t'acheter 15 000 piastres de vêtements.
Ou chez Escompte, le laisser.
Faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour refiler ça, puis tout. Puis là, finalement, ben, comme c'est des jeunes, tu sais, oui, tu déjoues des affaires, mais à un moment donné, leur inexpérience, si on veut dire, là, va les rattraper. Oui, oui. Fait que c'était un mélange de reconstitution, puis tu sais, inspiré d'histoires vraies, puis tout. Fait que je trouvais ça vraiment cool comment c'était fait. Fait que, bref, ce genre de réalisateur, t'aimes le film, puis après, tu suis plus nécessairement, tu laisses aller. Fait que là, de le retrouver.
Qu'il y a pas une longue filmographie, même ça fait longtemps qu'il travaille, mais il fait comme un film aux 8 ans. Là,
ouais, que, c'est ça. Je sais pas ce qu'il fait d'autre. Ouais. Là, c'est clairement sa plus grosse production. Mm-hmm. On retrouve des beaux acteurs, beaux et belles acteurs américains et européens qu'on aime. Chris Hemsworth, ouais, en fait, qui est australien.
Ouais, c'est ça.
Mark Ruffalo, Halle Berry et Barry Keoghan. On suit des vols de bijoux. On suit des vols de bijoux qui sont sur la côte pacifique, donc à L.A., et qui sont faits par notre bon Chris Hemsworth, qui est comme un gentil voleur, mettons. Ouais. Là.
Puis un peu asocial, qui a des
oui, oui, c'est ça qui est intéressant de le voir. Ouais. C'est quelqu'un qui regarde à terre. Il planifie tous ses trucs à la lettre, mais quand c'est le temps de parler à quelqu'un yeux dans les yeux, on dirait qu'il faut qu'il se gonfle de confiance, il le fait, puis après, ça marche plus. Là. Puis là, il y a un bon policier, là, Mark Ruffalo, que tout le monde loue le Beznik. Lui, il a une théorie. Là. Il dit, là, il y a plein de vols ces temps-ci, mais si on isole là, ceux qu'à chaque fois, le voleur a l'air de partir sur la route 101, justement, là, l'autoroute 101, puis il fait jamais de blessés, il blesse jamais les gens, il fait juste voler puis s'en aller, un peu comme dans notre... le film des vols dans les Toys R Us puis dans les McDo. Là,
avec, ouais, Roofman.
Ouais, Roofman, là, c'est ça. Ben, si on les isole, je suis sûr que c'est le même gars, c'est le même leitmotiv, puis tout, là, tu sais, motus operandi. Puis là, tous les autres policiers, ils sont ben non, tu fabules, fais juste trouver un coupable, puis pin, tu sais, mets ça sur le dos, puis on passe à autre chose, là, tu es en train de ralentir tous les dossiers. Mais lui, il insiste, puis même si ça met son mariage dans Dèche, il faut y aller. Fait qu'il y a ces deux côtés-là, puis justement, le personnage James Ward commence à sentir la soupe chaude puis vouloir peut-être s'arrêter de faire ces fameux vols-là. Il prétend que quand il va atteindre un certain montant d'argent, un non défini, il va être capable d'arrêter ses vols. Et là, va s'entremêler à tout ça, Halle Berry, qui est une représentante pour une grosse compagnie d'assurance, fait qu'ils vont essayer un peu de l'utiliser pour connaître genre des prochains plans, des prochains trucs pour... voler des affaires à des gens riches, que de toute façon, il y a des assurances qui couvrent ça et tout. Fait que c'est un peu... Ils volent pas les riches pour donner aux pauvres, mais ils volent des riches que, ultimement, ça leur fait rien de se faire voler.
Et qui serait en fait son dernier grand coup.
Et là, comme il travaille, lui, conjointement avec un autre monsieur qui donne un peu des cues et des affaires de même, mais qui est pas sur le terrain avec lui, joué par le talentueux Nick Nolte, là, il commence à avoir de la bisbille entre les deux. Fait qu'entre là-dedans, le Joker, sans mauvais jeu de mots, Barry Keoghan, qui, lui, avec son petit motocross, est pas mal plus un pitbull sans laisse qui vient foutre la marde. C'est ça, puis il fait dire, essaie de suivre l'autre, puis va leur court-circuiter par derrière. Fait qu'il y a un jeu de... chat et souris, mais avec deux chats puis trois souris. Fait que tout le monde s'amuse là-dedans. À quoi ça ressemble, Crime 101? C'est vraiment une esthétique plus des années 70, qu'on va dire, d'espèce de film d'action où on prend le temps d'établir des personnages. Il y a des longues scènes de dialogue, de rencontres. Ouais. Plus
je dirais qu'on est plus dans le drame policier que film d'action policier.
Ouais, exactement. C'est ça, vrai, c'est ça.
Faites la distinction.
Quelques scènes de poursuite en voiture, d'un peu de tirage dessus, ça peut ressembler à Heat. À Heat de Michael Mann, mais même Heat, il y a la fameuse séquence de braquage de comme 15 minutes où ça gonne partout. Enlève ça, il n'y a pas ça. Vraiment pas pour dire que c'est un film plate, mais comme dit, si vous êtes allé voir Refuge Fatal avec Statham il y a deux semaines, puis là vous cherchez le next, c'est pas ça. Il n'y a pas de coup de pied dans la face. En tout cas, pas de cette manière-là. Il n'y a pas de savate là, qui est donné à des personnages. Écoute, je veux pas être contraignant, mais c'est quand même un film de cinéphile, mettons, qui s'écoute très bien, excellente sortie au cinéma, un bon temps, un peu long peut-être, là, à 2h20, mais on prend le temps de l'apprécier finalement, puis de voir ce personnage-là avoir de la chimie entre eux. Puis comme tu as mentionné, ce qui est intéressant, c'est qu'Hemsworth n'est pas non plus une espèce de... il mentionne en joke, mais pas un Thomas Crown qui a tellement de charisme, puis tout, tu sais, il joue quelqu'un d'introverti, très solitaire, fait que c'est intéressant de le suivre à ce moment-là, puis qui semble pas non plus être dans le spectre de l'autisme, là. Des fois, c'est ça, l'autre angle, je dirais pas ça, là. En tout cas, c'est pas ce qu'on décrit de son personnage. Là,
ouais, peut-être juste écorché un peu par son passé
mystérieux, là.
Et tout ça est adapté d'une nouvelle de Don Winslow, qui est quand même un des auteurs policiers... qui fait du policier très réaliste, très en vogue, très apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, j'ai aimé cette longueur-là, On est ailleurs, comme, tu sais, même Den of Thieves avait un côté un peu plus rigolo. Ouais. Là, on est vraiment... Je pense que Heat est vraiment la bonne comparaison. C'est quand même lent, c'est sérieux. On prend le temps d'explorer tous les personnages. Il va y avoir plein de petites histoires à travers ça. Mais je trouve que ça rend juste ça plus riche. Et vraiment, la réalisation très classique de Bart Layton fait qu'on apprécie parce qu'à l'heure, justement, de où on a tendance à... exagérer parfois certaines séquences. Là, je trouve que tout se tient bien. C'est très réaliste comme approche. Fait que moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Et montage très dynamique aussi.
C'est ça, puis une petite folie là, de caméra installée dans les portières puis des choses comme ça. Là, ouais. Un petit esthétisme. Le classique de la... Moi, je trouve ça classique quand même, là, de la caméra qui va s'inverser, là, faire un 180 degrés en filmant les autoroutes puis tout. Puis... ça, c'est super cool. C'est vrai, tu parlais de Den of Thieves, bon, le deuxième, là, ben, Pantera, je sais pas quoi, a pas été vu tant que ça, mais t'sais, on parle que c'est un voleur de bijoux puis de trucs comme ça, mais c'est pas un film de braquage comme le classique Den of Thieves, de genre, OK, là, il va y avoir un 20 minutes que c'est juste...
Ouais, on explique
comment on prépare là, notre place, ça va être ça, puis on va, t'sais, c'est pas ça, il est comme tout seul. Justement, c'est plus qu'il faut qu'il parle à un, qu'il essaie de convaincre, qu'il essaie de faire ça, mais c'est pas comme... Il va pas braquer un coffre-fort caché au troisième étage avec des gardiens, puis c'est pas élitiste de même.
Non, puis la comparaison avec Heat se tient bien, où c'est vraiment le clash entre le voleur, le policier qui est à sa poursuite, et comment tous ces deux-là se démènent, puis c'est la comparaison.
Puis le policier qui est à contresens avec son équipe
exact,
de police.
Exact, qui vit des problèmes matrimoniaux. Puis et le bandit qui va tomber aussi en amour, va développer une relation. Ouais. Fait que on a suivi beaucoup l'archétype du scénario de Heat, mais c'est bien correct, puis c'est fait avec goût. Et moi, la révélation, c'est Monica Barbaro, justement, qui joue la femme dont va s'y prendre un peu Chris Hemsworth. Donc, petit rôle quand même, mais elle a tellement un sourire espiègle. J'étais fasciné à chaque fois que je la voyais. Et il y a beaucoup de rumeurs que ce serait elle qui serait la prochaine Wonder Woman. En tout cas, il y a un gros push pour que ce soit elle. Et je la verrais très bien.
En parlant de Rising Star, elle était dans Top Gun Maverick. Ouais, elle reviendra aussi.
Probablement.
Il me semble que c'est elle qui était littéralement teamée avec Lewis Pullman.
Donc voilà pour Crime 101. Si ce genre-là vous attire, allez-y absolument le voir. C'est très bien.
J'ai une crainte, là, je veux dire. Ma crainte, c'est que Crime 101 passe un peu trop dans l'ombre, puis qu'il va pas, même si c'est une grosse sortie, c'est un MGM, puis c'est vraiment 10 000 fois meilleur que Mercy. Là. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier là, avec MGM. Puis j'ai peur qu'il y ait de la misère à s'installer, puis qu'il peut avoir de la misère à rester longtemps au cinéma, puis c'est un film que c'est ça qu'il va avoir besoin, en tout cas. C'est comme la difficulté, mais tu sais, je peux me tromper, puis il va avoir un gros succès, puis tant mieux, là, mais. Si un premier week-end, finalement, trop poche, que ça floppe, qu'il fait 6 millions, ben c'est comme si tout le monde va l'abandonner rapidement, mais il mériterait pas ça. Là,
non, non, tout à fait. Je comprends ce que tu dis.
Bref.
Écoute, on verra bien. On verra bien.
Parce que, c'est drôle, là, ce double discours, comme quand on dit « Ah, il n'y a pas de comédie au cinéma, mais là, il y en a plus juste sur plateforme. » La fois qu'il en a une... En même temps, elle plaît peut-être pas à tout le monde. Fait que là, les gens ne vont pas nécessairement la voir. Fait que là, elle fonctionne pas. Fait que là, tu sais, oui, mais est-ce qu'on se... Dans ce cas-là, ben, c'est ça. C'est vraiment un bon film de cinéma. Je pense. C'est sûr qu'il aurait pu être mis direct sur une plateforme. On en a vu beaucoup, un peu de ce genre-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment un plus-value à Crime 101. Comme on dit, c'est une belle lettre d'amour à ces cinémas-là. C'est pas une copie ou un pastiche. Je pense que c'est vraiment plus un hommage à ce genre-là. Fait que mis modernement avec des acteurs qu'on apprécie et tout.
Et d'ailleurs, vous observerez, Mark Ruffalo a des petits problèmes de continuité avec sa moustache dans le film.
À cause de un autre tournage?
Je sais pas, mais à un moment donné, c'était flagrant parce qu'au début, il y a vraiment une moustache.
Il y a peut-être eu du reshoot.
Et là, des fois, il y a juste comme sa barbe de 5 jours, là, forte un peu. Là, fait que... ouais, je trouvais ça drôle.
On n'a pas fait la technique
de Cavill. On n'a pas investi
ça dans... Justice League. Là. Ouais, c'est ça. Le film a coûté 130 millions à cause de la moustache de Ruffalo.
Allons complètement ailleurs avec The Moment d'Aidan Zamiri.
Ouais, film de et avec Charlie XCX. Ben, pas de, c'est pas elle qui le réalise, mais c'est un mockumentary, un faux documentaire qui se veut. Un peu cynique, une satire, si on veut, de l'industrie musicale. On remonte il y a quelques années, on est en septembre 2024, le Brat Summer est terminé, c'était la grosse explosion de Charli XCX, qui était quand même après son genre sixième album.
Ouais, là. Ouais, c'est ça, quand
fait
même.
C'est pas, ça a pris comme du temps avec sa carrière, puis l'a amené, boum, ça a été cette grosse affaire-là. Fait que je pense que ce qu'on veut mettre en lumière maintenant en faisant ce film-là, ben, tu sais, il n'a pas été fait la semaine passée, là, mais c'est comme sa façon un peu dénoncer qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'elle s'est retrouvée à ce moment-là. C'est-à-dire que, raison de plus, comme c'est un genre de sixième album, je pense qu'elle s'est retrouvée propulsé plus gros que jamais. Puis là, évidemment, être avec une maison de disques puis une agence qui sont comme, comment est-ce qu'on peut... Faut que ça continue. Tu sais, ça peut pas arrêter puis tu prends une pause puis c'est d'autres choses. Comment est-ce qu'on continue à surfer sur le Blood Summer puis qu'est-ce qu'on fait, blabla. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent tourner, faire une captation de son spectacle pour pouvoir la diffuser. Je pense qu'ils ont entente avec Amazon, justement, qu'est-ce que ce soit. Puis... Je le dis tout de suite, toi et moi, Patrick, on n'est pas des connaisseurs de Charli XCX. Fait qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans tout ça et tout, je le sais même pas. Là, si elle a eu un show qui est sorti finalement sur Amazon, toutes ces affaires-là, il y a une grosse histoire, j'y viendrai avec des cartes de crédit. J'imagine que c'est arrivé pour vrai, là, s'ils se permettent d'en parler. Est-ce que c'est ça exactement? Je sais pas, mais je crois qu'on l'a pas tout inventé. C'était sa façon, dans le fond, je pense qu'il voulait réellement tourner un documentaire. Puis le côté de Charli, puis comme elle est, elle dit non, on va faire plus un faux truc, je veux dénoncer un peu ce qui se passe. Fait que c'est pas Me Too, là, c'est pas des affaires d'agression sexuelle, c'est juste que finalement, elle s'est retrouvée à un point où elle travaillait avec une amie pour faire une vision esthétique de la direction artistique de ce spectacle-là, mais elle s'est fait imposer un réalisateur parce qu'il a fait des grosses captations, mais de trucs genre Coldplay puis des artistes qui sont vraiment pas comme elle, mais que c'est quand même, il est chevronné pareil, joué par Alexandre Skarsgård, qui est super bon quand il joue de la comédie. Puis finalement, il y a comme ce clash-là, puis on sent que tout le monde tire la couverte de son bord, puis elle est au milieu, puis elle fait juste subir ça, puis elle se retrouve dans une situation où elle sait même plus ce qu'elle veut, puis il faut qu'elle prenne des décisions rapides, mais tout le monde sont comme des professionnels de leur industrie, fait qu'ils arrivent avec plus le torse plus bombé qu'elle, fait que je pense qu'elle se fait un peu barouetter dans tout ça. Fait que c'est pas un truc qui se veut non plus misérabiliste, qu'elle va dire « Ah, pauvre moi », là, c'est pas nécessairement ça l'idée, là. Fait que c'est elle qui est entre la satire puis un peu de montrer de genre « Ben, tu sais, c'est un peu ça que je vis day to day, là, le se faire barouetter puis utiliser mon image malgré moi, si on veut. » Fait que, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé en tant que non-initié à Charli?
Ben écoute, on réinvente pas la roue avec ce genre de propos de dénonciation artistique et d'ingérence et tout ça.
Même... puis, Spinal Tap, là.
T'sais, ouais, c'est sûr.
Tu tapais là-dedans.
Exact. Mais écoute, ça demeure quand même. Je pense que les fans de Charli XCX vont sûrement l'apprécier plus que moi. Tu l'as dit, je la connaissais pas. Pourtant, j'ai vu quand même qu'elle écrit beaucoup de succès. Donc, elle est aussi compositrice pour d'autres artistes, dont Camila Cabello, celle qui avait écrit Señorita.
OK, ouais.
Mais je la trouve quand même audacieuse de jouer avec son image. Parce qu'elle se présente pas sur son meilleur jour non plus. D'ailleurs, c'était assumé. Puis elle a dit elle-même, je vais présenter une version infernale de moi. Donc,
C'est ça. Et pas diva dégueulasse, là, mettons. Là. Je sais pas. Moi, non, je la trouve pas comme antipathique et tout. Mais c'est pas non plus rose bonbon avec des brillants de genre, ah, comme je dis, elle est tellement gentille. Ah, j'ai tellement pitié pour elle. Là. Tu sais, ben non,
c'est une business, anti-image.
C'est donc ça. C'est... qu'elle a toujours ses lunettes fumées. Puis ça, je sais qu'elle ça fait partie de son image aussi. Fait que c'est comme si son image de scène, elle l'a mis aussi dans son image de personnage. Ce qui en fait, comme on dit, un faux documentaire. Un
peu. Et tout ça est né, en fait... donc, elle avait fait la tournée Sweat en 2024. Et il y avait cette pression-là de la maison de disques d'effectivement faire un concert filmé. Parce que Taylor Swift avait fait son truc et là, on était un peu dans cette mouvance-là et elle ne voulait pas. Et elle a écrit donc à Aidan Zamiri, qui est un réalisateur de ses clips et tout ça. Donc, elle y avait un courriel lui exprimant un peu toutes ses émotions, ses états d'âme à ce moment-là. Et lui a décidé d'en faire un scénario parce qu'il trouvait ça super intéressant. Et finalement, ils ont décidé d'embarquer un peu dans cette folie-là de s'amuser... de c'est monter ça. Un peu ces attentes-là, les pressions de l'industrie, tout ça. Fait qu'on navigue là-dedans. Fait que la réalisation est quand même très dynamique aussi. Là.
Oui, parce qu'on utilise c'est ça, et les codes du docu, la caméra à l'épaule, des zooms, des affaires dans la même.
Caméra
aussi,
cachée un peu. Là, des fois, on sent que c'est comme s'ils étaient dans la pièce, mais très observateurs.
Comment on dit ça? non, j'allais dire exhibitionniste, mais c'est l'autre voyeur.
Ouais, c'est ça, voyeur.
Puis le côté aussi très... le début, là, les effets stroboscopiques là, et tout, moi, je vous mets avertissement.
Première minute, c'est assez intense pour
c'est
les
ça,
yeux.
C'est épileptique, là, mais ça, c'est l'image de Charlie. Tu sais, le poster, il est en gamme dégueulasse. Là. Il y en a soit c'est The Moment d'écran minuscule sur du vert fluo comme le Brad Summer, ou c'est genre gros plan d'elle avec... En tout cas, je trouve ça horrible.
Très démaquillé.
C'est comme l'esthétique minimaliste paint là, qui revient à la mode ou qui est revenu bien à la mode.
Et il faut souligner, c'est quand même une production A24, donc on est dans cet esthétisme-là.
Ouais. Alors, que, mais je me pose la question, est-ce vraiment une production A24 ou ils ont juste racheté le film puis ils distribuent? Parce qu'elle est britannique, là, pas américaine.
Ouais, non, je pense que c'est une coprod. Je pense que ça a été produit par elle et A24. Ouais. Mais on parle d'un petit budget de 4 millions. Fait que,
c'est ça.
Le
c'est
risque ça. Est tellement.
Mais d'après moi, tu vous êtes fan, vous connaissez Charlie, vous allez passer un bon moment à découvrir ça puis à l'apprécier. Sinon, je pense pas que c'est un must. Là. Écoute, je veux pas casser du sucre sur le dos, je vraiment pas haï ça, là, c'est bien correct. C'est juste comme on dit, il y a rien de vraiment nouveau. C'est basé beaucoup sur elle puis l'appréciation qu'on a pour elle. Puis aussi, la bande-annonce devient tellement rythmique que ça a l'air très drôle et absurde. Ça l'est pas tant que finalement, dans le film. Là. Ouais. C'est un peu les meilleurs jokes sont dans la bande-annonce. Là.
Et à noter quand même que Rachel Sennott au générique, qui était dans l'excellent Bottoms, et j'aurais pris plus de Rachel.
Ouais, puis elle aussi, elle fait partie de ceux qui jouent bien leur image de on s'en criffe pas mal, puis elle souhaite pas être dans le prochain Hunger Games dans la vie, je pense pas, Rachel Sennott. C'est la gang de... Elle est plus New York, elle, je pense.
Ouais, c'est ça. Alors, allons-y.
À gauche, à droite, en fait, j'aimerais mentionner, si vous cherchez une comédie, si vous voulez un peu plus vous taper sur les cuisses potentiellement, Nirvana, The Band, The Show, The Movie de Matt Johnson, une réalisation, un film canadien, Matt Johnson, qui avait réalisé, entre autres, Blackberry, justement, le fameux fail de la création, du rise and fall du Blackberry.
Qui était vraiment chouette comme film.
Tout à fait. Et ça, c'est la version cinéma d'une série canadienne, quand même culte, disons pas nécessairement largement connu de tous, mais qui est vraiment une zone culte pour ceux qui la suivaient, avec Matt Johnson et Jay McCarroll, on fait un pont vraiment avec The Moment, qui joue des versions d'eux-mêmes, qu'ils auraient un band Nirvana avec deux N, en fait leur band s'appelle Nirvana de Ben, puis là ils essayent tout le long de la série, là, c'est une série de peut-être 17 épisodes sur deux saisons, des 30 minutes, qui essaie de se booker un show au Rivoli à Toronto, qui est un bar bien normal, là, genre l'escogriffe, même moins que ça. Puis je veux pas que... C'est vraiment cool, l'escogriffe, mais tu sais, c'est pas impossible de jouer là. Normalement, t'appelles, tu book, mais eux, c'est comme s'ils y arrivent pas. Puis c'est même pas clair.
C'est l'absurdité de la situation.
Oui, puis c'est même pas clair c'est quoi leur band. Là. On les voit pas tant jouer de la musique. Un qui joue du piano, l'autre qui chante, puis ils font juste.
Ils ont aucune chanson. Non, c'est le running gang.
Voilà. Fait que c'est juste leur band, mais ils sont jamais en pratique. Ils sont jamais en train de faire quoi que ce soit. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir en fait, je vais finir la mise en scène. Le film se tient en lui-même. C'est pas besoin d'avoir. C'est pas une suite de la série. C'est comme inspiré de. C'est comme un long épisode. Fait qu'on arrive là, on va comprendre que ces deux gars, puis là maintenant ils sont 10 ans plus vieux, fait qu'encore plus paumés, chômeurs, qui essaient de faire ça. Mais c'est pas des tout croches là qui saoulent puis qui font de la.
Des grands rêveurs.
Ouais, c'est ça. Qui partagent co-chambre dans une maison puis ils veulent juste que leur band fonctionne et blablabla. Le film va devenir une vraie lettre d'amour à Back to the Future. Mm-hmm. puis c'est aussi filmé sous, c'est un faux documentaire aussi, caméra à l'épaule, puis des fois je pense qu'on prend vraiment les réactions live des passants qui sont là, on leur dit pas trop qu'on fait un film et quoi que ce soit, on signe des releases par après, fait que tu sais eux, Jay puis Matt, ils actent puis ils mettent en scène, mais ils prennent les réactions des passants à Toronto live, fait que là ils ont un gros plan, c'est tellement canadien Toronto, de sauter de la tour du CN pour arriver dans le Skydome. Ouais, c'est ça. Puis là, faire de la pub pour dire on est en show ce soir au Rivoli. Fait que là, comme ça, ils n'auront pas le choix, le Rivoli, de nous booker. Puis là, d'aller là. Puis là, ça chie, puis ils chicanent. Puis finalement, Matt crée une machine avec leur gros Winnebago à voyager dans le temps pour retourner en 2008 pour marquer, tu veux faire de quoi de plus gros sur le Ben, puis etc. Sauf que ça va créer un peu l'effet papillon, puis ils vont se retrouver en chicane, puis avoir des problèmes. Fait que ça va être une situation de retour vers le futur, puis là, il faut aller à 88 miles, puis on a besoin d'électricité, puis on réutilise la tour du CN plutôt que le grand clocher, puis tout ça. Fait que c'est très drôle, c'est très léger. Oui, c'est une comédie à propos d'un band de musique, mais c'est pas un film musical comme Spinal Tap, par exemple, et tout. Il existe une version française, mais c'est, la force, c'est vraiment en anglais. Je pense que c'est là que ça va se passer. C'est ça. Ça jouera pas dans tous les cinémas, mais je le recommande vraiment. Je m'attendais vraiment à rien. Puis j'ai pas capoté, là. Je veux pas le survendre, mais j'ai vraiment apprécié le moment. J'ai trouvé ça.
C'est très surprenant. Ouais,
ouais, puis c'est tellement fait avec amour. C'est bon enfant. Tout. C'est créatif, c'est ça. C'est sympathique. C'est pas non plus absurde niaiseux comme Adam Sandler, là, pour le meilleur et pour le pire. Fait que Nirvana, The Band, The Show, The Movie, là, vraiment très cool. C'est ça, ça parle de la poursuite de ses rêves, du lâcher prise, de comme, continuer là-dedans. Des faits drôles, c'est que on va se retrouver dans une réalité alternative où finalement McCarroll, ben Jay a sa carrière solo puis qui est plus grosse que eux les deux ensemble. Puis en 2014 à peu près, Jay puis sa sœur, il y avait un band canadien qui s'appelle Brave Shores. Et c'est eux qui ont genre le gros hit Never Come Down, là. Puis dans le film, quand Amani a sa carrière solo, puis il joue ça, ben là, parce que je savais pas ça, puis j'ai comme, hey, il a eu les droits pour ce tune-là, puis ils font ça, mais en fond, c'est sa tune à lui de son band. Mais tu vois, comme on sait pas c'est quoi la musique qu'ils font, ben c'est comme s'il faisait semblant que c'était ça qu'il a fait, mais dans le fond, c'est ça qu'il a fait.
Très méta.
C'est ça, c'est très méta, exactement. Fait que voilà, pour Nirvana, je peux dire autre chose.
Ben, ce qui est très cool, c'est qu'eux sont amis depuis le secondaire.
OK.
Puis avant même qu'ils fassent leur série télé, ce concept-là, c'était une série web. Fait qu'ils ont parti ça sur le web.
Ah.
Après ça, transformé en série télé. Fait qu'ils roulent ça depuis comme 20 ans, là. Alors, ces personnages-là puis cette idée-là. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis je connaissais pas le phénomène. Ça m'a donné le goût de voir la série parce qu'apparemment que dans la série télé aussi, on fait beaucoup de références au film et tout ça, même dans les plans, dans l'utilisation de la musique, parce que c'est...
Mais au film, ça veut dire à des...
À différents films, okay, là, ouais. Iconiques, là, parce que plan par plan, des fois, il y en a, ils sont allés piger à Back to the Future, là.
Ouais. Ben, à mener, le personnage dit même, ah, ça va être un cauchemar pour les droits d'auteur, cette affaire-là.
Et la musique,
ben,
qui est très...
Jay qui fait la musique, ça joue sur une note, là, pour les droits d'auteur, puis tout, là. Puis, puis il y a un moment dans le film où, évidemment, là, il faut pas qu'ils se recroisent quand ils sont dans le passé. Puis c'est vraiment eux d'il y a longtemps.
Oui, ils sont allés chercher des footage, des images.
Ils sont incrustés dans le coin, puis ils sont retournés ces mêmes rues, puis tout.
Fait que je sais pas si l'ouverture, d'ailleurs, qui contextualise déjà l'histoire, si ça vient déjà d'un épisode ou c'est juste des trucs qu'ils avaient laissés au montage, puis qui sont allés repiquer.
Mais je pense que un qui pianote, puis l'autre qui arrive en courant sur le tableau blanc, puis qui fait un plan, ça, je pense que c'est comme à peu près chaque épisode. Là.
Oui, c'est ça.
Cette prémisse-là de exact. OK, le plan, c'est faire ça. Là.
Ouais.
Fait que
très sympathique.
Très, très cool. Et comme on dit toujours, ça ne sera pas à l'affiche pendant 8 semaines.
Non,
sauter sur l'occasion, il y a un momentum pour aller voir Nirvana. J'ai vu aussi une offrande cette semaine, un film familial, Goat, Rêver plus haut. C'est pas le bon réalisateur. Un réal comme tel. On va suivre. C'est un film qui ressemble à du basket, mais ça s'appelle du Roarball. Mais c'est pas mal du basket, mais juste plus lousse.
Alors, c'est-tu d'une idée de Stephen Curry ou quelque chose?
C'est librement inspiré de l'histoire de Stephen Curry. D'accord. Pourquoi? Parce que Stephen Curry est un petit joueur de basketball, un peu plus petit, là, mais c'est pas non plus 5 pieds 4. Et qui est spécialiste de lancer. C'est lui qui a ramené beaucoup les trois points, lancer de loin, se faire de l'espace, vu qu'il est petit, plutôt que sauter dans la mêlée puis se faire manger des coups de coude d'en face.
Puis il a grandi avec des chèvres, c'est ça?
Ben, en fait, lui, il est une chèvre, il a grandi avec des taureaux et des grizzlies. On est dans une espèce de ville animale. Tout le monde est des animaux, parle. Il n'y a aucun humain là-dedans. Ils sont tous aussi un petit peu anthropomorphiques, là. Ils marchent tous sur deux pattes debout, là. Fait que Will, ben, c'est un petit bouc, là, une petite chèvre qui a des grands rêves. Il est un fan du Roarball, puis il aimerait ça jouer professionnellement là-dedans. Puis l'équipe de leur ville, ils ont une vedette, j'ai oublié son nom, Jet Hillman, en tout cas, qui est une panthère. Sauf que c'est vraiment la tête d'affiche. C'est une ligue mixte. Fait que c'est une super joueuse vedette, mais elle a jamais gagné le championnat. Fait qu'il l'adulait quand il était jeune. Puis là, plus tard, il va se retrouver par un concours de circonstances. Ils vont aller repêcher des talents n'importe où. Will va être pris dans l'équipe, mais là, il va falloir qu'il gagne la confiance. Ils réalisent que toute leur équipe sont un peu... Ils ont peur de cette joueuse vedette-là parce que... tellement talentueuse qu'elle fait pas confiance aux autres. C'est pas la méchante, mais elle fait pas confiance aux autres. Fait qu'elle passe jamais le ballon pis tout. Fait qu'il va falloir qu'elle apprenne à jouer en équipe pour, si elle veut ramener un ultime première fois le prix, tu sais. Ça fait un peu penser au hockey, tu sais, Ovechkin. Là. Ça faisait longtemps avant qu'il gagne finalement en 2017. Puis c'était comme, ouais, t'as beau être un des meilleurs joueurs. Qu'est-ce que tu fais à l'équipe, là, à part faire 55 buts, là? Fait que ce côté-là, pas besoin d'être fan de basket, je suis pas vraiment ça, mais c'est quand même un film qui est très sportif. Il joue beaucoup de matchs, tu sais, le comparatif, ça serait Space Jam, par exemple, ou les Mighty Ducks, tu sais. Oui, c'est une comédie familiale, ça peut parler à plein, mais à un moment donné, le sport est au centre. De l'affaire, de l'histoire, mais t'sais, c'est sur le dépassement de soi, l'ouverture vers les autres. Puis le côté intéressant avec cette panthère-là, Jaguar-là, le côté vieillissant dans le sport, la pression qu'elle a subie des autres, de son corps vieillissant, mais c'est comme, hey, prends donc ta retraite, puis sac nous patience, tu nous as choqué, puis blablabla. Fait que tu as été aussi bonne, puis adulée jusqu'à temps qu'à un moment donné, on te respecte plus finalement là-dedans. T'sais.
Puis, ah, j'avoue que ça, on a rarement traité ça comme un film d'enfant en plus.
Puis, mais on dirait que vu que ça prenait un peu... ben, il y a un autre joueur vedette d'une autre équipe qui, lui, il y a un gros beef contre. Puis tu sais, c'est plein d'animaux, là. Fait que les autres, c'est ça, des chevaux, des taureaux, des girafes. Il y a même des autruches parce que c'est plus rapide. T'sais. Puis des alligators, des trucs comme ça, là. Mais une petite chèvre, ça, on n'a jamais vu ça, là. C'est trop petit et frail. Mais la petite chèvre, elle saute partout, puis elle fait des flips, puis finalement, elle est très agile, etc., là.
Je pense qu'au niveau de l'animation aussi, c'est
très cool l'animation. C'est, ça, hein? C'est vraiment le style Spider-Man, Spider-Verse et tout. Là. Fait que c'est pas. Écoute, je pense pas qu'il va être aux Oscars l'an prochain, là, pas à ce niveau-là, mais j'ai vraiment apprécié. Honnêtement, je voulais juste écouter un petit bout pour me donner une idée, puis je me suis laissé prendre au jeu, puis j'ai écouté le film au complet, puis tout. J'ai vraiment bien apprécié ce film-là, mais je suis quand même un adepte de sport et de regarder du sport en général. Mais c'est pas trop pire non plus sur des fois, il y a des films là, que le dernier match, là, il dure genre 25 minutes dans l'histoire. Là. C'est pas si pire. En fait, ça prend un certain temps même. Le film dure, je crois, 1h35, puis ça prend quasiment 40 minutes là, avant qu'il soit dans l'équipe et que ça commence à être là. Fait que y a pas... C'est autour du sport, mais c'est pas juste ça, parce que comme c'est un sport un peu inventé, ça ressemble vraiment au basket, c'est juste que le terrain peut subir des cataclysmes puis des affaires comme ça, mais ils n'ont pas besoin de nous expliquer les règles. Là. Ça reste ballon-panier, là, assez simple. Là. Fait que c'est pas comme... Rollerball, là, mettons, là, il y a plusieurs années que là, tu comprends rien, ou même le roller derby, là, tu n'as pas le choix d'expliquer un peu dans les Furies ou dans Whip It, mais là, tu comprends, là, c'est l'équipe qui fait le plus de paniers, même s'il y a un trou puis de la lave dans le terrain, ça reste ça. Là. Il y a un peu ce côté baseball-là. Au baseball, chaque terrain est un petit peu différent. Le diamond est pareil, mais le champ, la forme, la profondeur, bon, on a fait selon l'espace qu'on avait au centre-ville. Fait qu'on dirait que c'est comme eux, ah, ça c'est l'équipe des flammes, fait que c'est en magma. L'autre c'est de la glace, l'autre c'est ça, mais c'est pas non plus comme le Elements de Pixar, que c'est pas ces ségrégations-là et tout. Puis, bref, très sympathique. Deux films québécois sortis quand même limités. Montréal, ma belle de Chow Dan Hee, qui se passe à Montréal. Établie à Montréal depuis plusieurs années, une mère de famille chinoise de 53 ans va entamer une relation amoureuse avec une jeune Québécoise. Donc, briser les moules, s'affranchir, se permettre d'être soi-même et de son orientation sexuelle. Ce qui est super là-dedans, c'est que c'est Joan Chen, grande actrice sino-américaine qui joue là-dedans, qui est célèbre pour Twin Peaks, entre autres, qui a appris le français pour ce rôle-là. Okay. Elle a appris même ses dialogues. Je pense pas qu'elle pouvait avoir des grandes conversations, là, mais puis c'est super bon. Là. C'est vraiment excellent. Puis aussi, elle est à l'âge, ben, dans le film, là, à l'âge où sa fille, qui est grandue maintenant à 18-19 ans, elle dit, ben là, je vais arrêter d'aller chez le médecin avec toi puis de traduire pour toi. Là, Faut que tu vives ta vie. Fait que A s'inscrit à des cours de français, A va oser s'inscrire à ses réseaux, puis rencontrer une jeune Charlotte Aubin, qui va, elle, être beaucoup plus à l'aise dans son orientation sexuelle, puis tout, puis essayer de dire, ben, t'sais, émancipe-toi, puis vis ta vie, là. Fait que ce drame romantique-là, qui est très, très beau, Montréal, ma belle. Ailleurs, La nuit de Marianne Métivier, captant divers sons de la nature sauvage québécoise au fin d'un projet artistique, Marie entretient une correspondance téléphonique avec Jeanne, étudiante en maîtrise à Montréal. Attention, d'autres personnages s'ajoutent. Cette situation va préoccuper son conjoint Nico, qui lui aussi est un biologiste en train qui est contraint d'accueillir, pardon, dans leur maison en campagne, Noé, qui a fui Paris sur un coup de tête. Fait que là, on est rendu à 4 personnages, mais résistant aux avances de Marie, la Française en deuil se sent davantage attirée par Yann, un fermier célibataire qui n'a jamais quitté sa région. Et pendant ce temps, on retourne à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. Jeanne attend des nouvelles de Marie dans l'espoir de la rencontrer en chair et en os. Film choral, plein de gens qui s'entremêlent. Un film très sensoriel sur beaucoup par la captation sonore du, rappelez-vous, ce premier personnage de Marie qui fait un projet artistique. Casting internationaux des Québécois, Émile Schneider, Amaryllis Tremblay, mais aussi Camille Rutherford, l'actrice française très en vogue. C'est donc un film très sensoriel, poétique, qui traite de la place de chacun dans le monde, sur aussi l'accomplissement personnel. Une sortie limitée. On a fait un épisode spécial qui est en ligne depuis hier. Tu t'es entretenu avec la cinéaste, donc réalisatrice et scénariste Marianne Métivier. C'est son premier long métrage. Et la comédienne Amaryllis Tremblay, que d'ailleurs j'ai regardé, puis elle est très à surveiller, Amaryllis. Si on l'a vu ça et là récemment, là, elle va être dans Ce qu'on respire sur Tatooine, qui est en production. Et aussi le prochain, Charles-Olivier Michaud, lui qui a fait Rue, entre autres, c'est Devenir un monstre, elle va être au générique de ce film-là aussi. Fait que, d'après moi, on va la revoir et peut-être même la réaccueillir au balado dans les 2 prochaines années. Tes impressions rapidement sur la nuit?
Il faut dire que c'est vraiment un film, tu l'as dit, un film d'art. Là. C'est pas art et assez abstrait, là. Ça s'écoute quand même très bien.
C'est ça.
Mais on est plus de l'ordre de la poésie mise sur pellicule.
Ouais, c'est contemplatif.
Très contemplatif, assez lent. Histoire en 2 temps. Mais somme toute, quand même très bien réalisé, il faut dire quand même, Marianne. Mm-hmm. A vraiment sens du cadrage. Les images aussi, c'est intéressant. Mais c'est pour quand même un public très averti.
C'est ça. Mais les premières critiques que je vois là, chez 24 images, chez la presse partout, c'est très bon, là, très très bon. Mais oui, c'est pas un people pleaser.
Non, c'est ça.
Voilà, la semaine prochaine, 20 février, on va parler de Pillion, qui sort cette semaine à Montréal, mais qui est en sortie plus large par la suite. Cette comédie BDSM homosexuelle avec Harry Melling, le fameux Dudley Dursley dans les Harry Potter. Mm-hmm. Et Alexander Skarsgård, parce qu'il est partout tout le temps. Il va être dans 3 films à l'affiche en même temps, je sais plus. La comédie noire, How to Make a Killing, avec Glenn Powell et Margaret Qualley, que j'ai bien hâte de voir, mm-hmm. qui a l'air très sympa. J'ai su aussi, j'avais pas remarqué que c'est pas un film américain, c'est un film brit. Okay. Peut-être coprod, là, mais c'est Studio Canal à la base. Même si c'est justement A24 qui distribue, c'est un film européen.
OK.
Pour nous contacter, écrivez-nous au balado à commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province avec, on rappelle, Catherine Chabot en couverture. Donc, c'est la Saint-Valentin. On a parlé de Wuthering Heights, mais il y a L'Arme idéale qui avait pris l'affiche la semaine dernière. Ouais. Folichonnerie est encore là. Montréal, ma belle aussi, prend l'affiche. Avec plein de offres différentes du côté romantique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et bon chocolat peut-être. Et si jamais vous êtes amoureux, amoureuse, dites-le donc à la personne concernée. Ça va sauver du trouble à bien du monde.
Ouais, c'est pas tout qui se devine.
Mm-mm.